Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 6 septembre 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle, de retour des îles de la Madeleine.
Oui, bonjour.
Je suis tellement contente d'être avec vous ce matin. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Quirouac.
Bonjour.
Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Bonjour. Et Maurice Bolduc. Derrière la
bon
vitre.
Jeudi.
Merci, merci. Bonjour Maurice. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous... Monique.
Alors, aujourd'hui, je commence par deux articles un peu plus courts qui concernent la santé.
La santé.
La santé. D'abord, ce que les imprimantes 3D... 3D et santé...
Oui, j'ai hâte de voir.
...de réaliser, en fait, en médecine.
Ah,
c'est assez impressionnant.
Oh.
Et en second lieu, une utilisation, je dirais, inusitée des probiotiques.
Les probiotiques, ça, on ne sait pas ce que c'est, mais il y en a dans le yogourt.
Il y en a dans le yogourt, c'est ça, exactement. Certains types de yogourt. Et pour terminer, on s'intéressera à une importante découverte archéologique. Alors, je vous dirai dans quel pays, c'est la Grèce. Et je n'en dis pas plus... Nos auditeurs doivent rester à l'écoute pour
la
découvrir,
cette découverte. Yvan, de quoi tu nous parles ce matin?
Moi, mon premier article s'adresse à tous les papas et à tous les mamans qui vont dans les arénas, sur les terrains de soccer, encourager leurs enfants. ça m'a beaucoup touché, cet article-là. C'est une lecture que je ne fais pas normalement à la radio, dans une source que je ne fais pas. Alors, je vous apporte ça. Ça m'a vraiment touché.
Oui.
Et mon deuxième, je vous parle des personnalités de la semaine de la presse qui font du sport et plus.
Le « et plus » est important.
C'est très important.
Oui. Et de mon côté, je vais vous parler de la rentrée scolaire. Je sais que c'est déjà fait pour la majorité des enfants, mais particulièrement pour les plus petits, parce que ça... occasionne où ça crée beaucoup de stress.
Oui,
la rentrée
oui.
scolaire, ça cause pour chez eux beaucoup de stress. Et en seconde partie, je vais vous présenter quelques exercices pour soulager ce stress que les enfants vivent.
Est-ce qu'on va pouvoir pratiquer?
Oh, on va pouvoir pratiquer. On peut appliquer ça à nous-mêmes. C'est parfait.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est parti! Alors, Monique, on commence avec vous ce matin.
Oui.
L'imprimante 3D et la santé.
Oui, c'est ça.
Et qu'on a hâte.
Oui, j'imagine. Ça fait un peu peur. C'est un article de Marine Corniou pour la revue Québec Science de septembre 2018. Il s'intitule « Imprimer des bras et des artères ».
Des bras,
des bras et des artères.
Ouais. Oh. Bon, il y a quelques années, les imprimantes 3D se limitaient à produire des petits trucs en plastique, des babioles, en fait, d'une utilité plutôt relative. Hein?
Mais
vous
là,
avez tous entendu parler de ça.
Des membres et des organes.
Mais là, aujourd'hui, on est en passe vraiment de bouleverser la médecine. En fait, c'est une révolution pour la pratique qui n'arrive qu'à peu près tous les 25 ans. Donc, c'est extrêmement important. Un des acteurs majeurs, c'est le docteur Gaston Bernier, qui est sur le point d'inaugurer un centre intégré d'impression 3D médicale, en collaboration avec un centre de recherche industriel du Québec.
Donc, c'est chez nous?
C'est chez nous, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, depuis quelques années, le nombre de matériaux composés imprimables ne cesse d'augmenter dans le champ de la médecine. Les hôpitaux, d'ailleurs, en font de plus en plus. Et plusieurs centres sont au Canada. Donc, on participe à l'énergie internationale sur ce plan-là. On produit en ce moment, entre autres, des prothèses externes. Alors, des bras, entre autres. À partir d'un scan du patient, on crée un modèle informatique qu'on va imprimer ensuite.
Qui va ressembler au vrai bras
Qui va ressembler au vrai bras, exactement. Alors, par exemple, au Centre de médecine innovatrice, le CMI, je crois que c'est de l'Université McGill, on s'est doté d'une imprimante qui coûte autour de 500 000 $. Hein, c'est pas une petite affaire.
Combien coûtent les cartouches?
On ne sait pas. Mais vous avez sûrement vu dans des émissions de télé qui touchent la médecine, bon, des téléromans américains, entre autres, on produit déjà ces organes. Donc, on est capable de combiner plusieurs textures et couleurs dans un même objet. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, entre autres?
Bonne question.
Hein, c'est dans le but de faciliter, en fait, le travail des chercheurs cliniciens en produisant des répliques d'organes. Entre autres, on nous parle dans l'article de Justine Garcia, qui est doctorante en génie mécanique à l'Université McGill, qui a créé des aortes mm-hmm. ayant une forme et une élasticité qui est similaire à celle des vraies aortes. Et pourquoi? Eh bien, c'est pour que les résidents en médecine puissent s'entraîner sur cet organe artificiel jusqu'à un certain point pour couper et suturer comme si c'était, sur des modèles vivants. Le CMI a aussi reçu la visite de chirurgiens, je souligne, expérimentés. Hein, c'est pas des amateurs là, c'est pas des années, c'est pas des débutants, c'est pas des premières années internes, première année là. Alors ils voulaient se pratiquer en fait pour retirer une tumeur hépatique mal positionnée. Alors en manipulant une copie 3D du foie du patient concerné, l'équipe a pu se préparer à l'intervention. Alors, c'était comme une répétition générale, en quelque sorte. Donc, la planification des procédures permet aux chirurgiens d'être plus efficaces, de gagner du temps et de réduire les saignements.
Mm-hmm.
Petit détail fort important. Et tout ça nous est raconté par le docteur Gaston Bernier. La prochaine frontière, c'est l'impression de tissu biologique. C'est un petit peu difficile à imaginer, mais bon... C'est bien ce qu'ils vont faire. Des chercheurs ont réussi en 2017 à imprimer des cellules de cartilage de peau ou d'os. Alors, d'ici 10 ans, on aura probablement des cœurs imprimés, conservés au congélateur. Alors, on est loin des petits gadgets qu'on imprime pour jouer.
Oui.
Mais dans ton article, est-ce que c'est toujours pour se pratiquer?
Non, parfois, les prothèses servent vraiment...
Mais est-ce que ça rentre dans le corps de la personne?
Ben, écoute, j'imagine qu'ils construisent avec des tissus compatibles avec le corps.
Mm-hmm.
Quand on va chez le dentiste maintenant et qu'on a besoin d'une couronne, c'est pratiquement fait en trois dimensions, hein, avec une imprimante 3D. Alors... Voilà. Mmh. Donc, c'était un article de Marine Corniou pour le Québec Science de septembre 2018.
Mmh.
Est-ce que j'enchaîne avec l'autre, Marie?
Me le demande, en fait. Peut-être passerons-nous à un autre article...
Plus tard?
À cet autre article plus tard, oui, effectivement, pour respecter le temps que nous avons. Ouais.
Ouais.
Ah, voilà.
Alors, on parlera des macrobiotiques
plus tard.
Une autre fois.
Oui. Alors donc, l'entrée à la maternelle et le stress. Alors moi, j'ai choisi des articles sur le stress ce matin. Non, je ne suis pas stressée. Ou à peine.
Je ne passerai pas de commentaires.
Non, c'est ça. On va retenir à peine. Ce texte-là, c'est un texte de Solène Bourque, qui est psychoéducatrice et que j'ai trouvé sur le site naitreetgrandir.com. C'est un texte, je le souligne, de mai 2016, mais il est tout à fait actuel.
Bien sûr, on
parce
est stressé à n'importe
il y a la rentrée
quelle année.
À chaque année, de toute façon.
C'est ça.
Alors, puis il y a des enfants qui entrent à la maternelle à chaque année.
Je le sens chez mes voisins, qui sont bien stressés.
Alors, peut-être reconnaîtras-tu des symptômes ou des comportements. Oui. L'entrée à la maternelle amène votre enfant à vivre plusieurs changements en même temps. Il est possible que cela lui cause du stress. Heureusement, vous pouvez l'aider à s'adapter aux nouvelles expériences qui l'attendent. Même si votre enfant est excité d'entrer à la maternelle, il peut aussi se sentir stressé d'arriver dans un milieu qu'il ne connaît pas. Ce sentiment est normal puisqu'il se prépare à vivre beaucoup de nouveautés. Selon des études, les enfants sont plus sensibles que les adultes au stress causé par les changements dans leur vie. C'est en partie parce que leur cerveau est encore en formation et qu'ils ont du mal à imaginer à l'avance les événements qui s'en viennent. Pour décrire les éléments qui causent du stress, et ça, c'est un mot que je trouve qui est vraiment intéressant parce que ça s'applique à tout le monde, les études utilisent le mot CINE, C-I-N-E, pour contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour égo ou estime de soi, égo menacé. Or, l'entrée à la maternelle est un événement qui contient tous les ingrédients de cette recette du stress. Voici ce qui peut rendre la rentrée stressante pour un enfant. Contrôle. C'est le manque de contrôle qui est stressant. À la maternelle, l'enfant ne contrôle pas grand-chose. En fait, pas juste à la maternelle.
À l'école.
C'est pour un bout. Alors.
Oui, et dans la vie pour les adultes aussi, il ne choisit pas son enseignante ni ses camarades de classe. Il ne décide pas non plus des activités qui sont le plus souvent planifiées
ni de sa place.
Par l'enseignante, ni de l'endroit où il va s'asseoir. L'imprévisibilité, donc l'enfant ne sait pas comment vont se dérouler ses journées. Il ne sait pas si les choses vont bien se passer avec son enseignante et avec les autres élèves. En bref, il ne sait vraiment pas à quoi s'attendre de son aventure à l'école. La nouveauté, l'entrée à la maternelle est une situation nouvelle. L'enfant doit tout apprivoiser, les lieux, les gens, les amis, le fonctionnement, où sont les toilettes, les règles, etc. Et l'ego, l'estime de soi menacée, avant la maternelle, l'enfant passait ses journées dans un environnement qu'il connaissait bien. Il s'y sentait à l'aise, confiant. Arriver dans un nouveau milieu peut lui faire perdre confiance en ses capacités. Par exemple, il peut avoir peur de faire rire de lui s'il pose une question. Comment savoir si votre enfant est stressé? Bon, c'est pas facile pour un enfant de réaliser qu'il est stressé. C'est pas facile d'en parler non plus. Il est donc important d'être attentif aux signes qui montrent que votre enfant vit du stress lié à son entrée à la maternelle. Les changements dans son comportement sont de bons indices. Si votre enfant a de la difficulté à s'endormir le soir ou s'il se réveille souvent la nuit alors qu'il dormait bien, ça peut être le signe qu'il est stressé. Le stress peut aussi le rendre plus sensible et l'amener à pleurer plus souvent que d'habitude. Il pourrait également être plus irritable, impatient, se fâcher à la moindre remarque. Parfois, l'enfant stressé collabore moins bien aux tâches et aux routines, s'habiller, se brosser les dents, etc. Votre enfant pourrait être aussi plus anxieux que d'habitude, vous poser beaucoup de questions sur l'école, s'imaginer dans des situations catastrophes, comme être embarré seul dans la classe ou dans les toilettes, tu ris, mais c'est pas drôle. De plus, le stress pourrait lui donner mal à la tête ou mal au ventre. Alors, quelques conseils pour réduire le stress de la rentrée. On peut calmer les inquiétudes de notre enfant en parlant avec lui, en l'aidant à mettre des mots sur ce qu'il vit. Il faut prendre ses peurs au sérieux, pas rire, M. Deslauriers.
D'accord.
Il est possible de diminuer le stress de votre enfant et de faire en sorte que l'école soit pour lui une expérience positive. L'idée, c'est de lui donner un peu de contrôle sur la situation, diminuer le caractère nouveau et imprévisible des événements et lui donner confiance. Alors, dans le texte, on donnait des conseils à faire avant la rentrée.
Oui, parce que je suis curieuse pour le contrôle, Marie. Qu'est-ce qu'il va contrôler, son crayon?
Ben, alors, dans ce qu'on le peut encore crayon. Faire oui, maintenant, oui. Même si la rentrée est déjà faite, on peut l'inviter à choisir son sac à dos, sa boîte à lunch, si ce n'est pas encore fait.
Oui, oui.
On lui donne un certain contrôle sur ce qui se passe dans sa vie. On lui donne des petites responsabilités, ranger ses vêtements, ses jouets, attacher son manteau, mettre la table. Ça favorise son autonomie, ça lui donne confiance. On peut aller à la bibliothèque emprunter des livres sur l'entrée à la maternelle. Comme des histoires, la plupart sont drôles, ça peut l'aider à dédramatiser. Et on peut lui parler des choses qui ne changeront pas. Par exemple, ça peut être rassurant pour lui de savoir que ce sera toujours la même personne qui va aller le chercher en fin de journée, comme avant.
Mm-hmm.
Ce qu'on peut faire après la rentrée aussi, au retour de l'école, on prend un moment pour parler de sa journée. Puis on lui pose des questions, pas des questions ouvertes, pas des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Par exemple, raconte-moi un moment que tu as bien aimé à l'école aujourd'hui. Ou aussi de parler d'un moment qu'il a trouvé plus difficile et l'aider à trouver des solutions pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Faire des activités calmes en soirée pour préparer l'enfant au sommeil, parce que s'il dort bien, ça sera plus facile pour lui de gérer ses émotions et de s'adapter à la nouveauté. Et on peut aussi lui raconter des souvenirs, de nos souvenirs préférés de l'école. On peut lui montrer des photos de nous quand on était petit, quand on est passé par là aussi.
Oui, oui.
Et l'enfant, donc, va être assuré de voir qu'on est passé par là et qu'on comprend ce qu'il vit. Alors, voilà, ce texte, mm-hmm. un beau texte de Solène Bourque, psychoéducatrice, qu'on peut trouver sur le site naître-et-grandir.com. Voilà.
On t'a fracturé le ventre comme on brise des objets sans importance. Et depuis, tu te demandes pourquoi tu restes. Plus rien n'a de sens. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi moi, un signe de vie. Ou tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir, quand la nuit tombe, tu pars toute seule, sans faire de bruit. Chercher des solutions, mais à part la violence, je n'ai rien pu trouver. Aucune réponse à mes questions. C'est toujours toi qu'on finira par faire payer. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux, même si c'est dur. C'est dur pour toi juste de rester en vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir quand la nuit tombe, tu pleures toute seule sans faire de bruit. Tu restes si plus rien n'a de sens. Mais moi, j'espère tellement que tu vas mieux. J'espère tellement que tu vas mieux. Donne-moi au moins un signe de vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux. Même si chaque soir, quand la nuit tombe, tu pars toute seule sans faire de bruit. J'espère tellement que tu vas mieux, même si c'est dur, même si c'est dur pour toi, juste de rester en vie. Oh tellement, j'espère tellement que tu vas mieux, même si chaque soir.
Ariane Zita, j'espère que tu vas mieux.
J'espère, moi aussi, que oui. Tu vas mieux.
Ben moins stressé un peu.
Évidemment.
Mais on sait qu'on doit respirer aussi. Hein?
Oui.
On a lu ça la semaine dernière. Là.
Oui.
Hein? C'est très
important. Mais mon article, il va un peu dans la suite. Oui.
Oui.
Oui, je pense bien.
Allons-y.
Ça s'appelle Fiston d'abord. Si vous avez regardé la Coupe du monde de soccer cet été, il y avait un analyste, un animateur qui s'appelle Olivier Brett, qui est vraiment bon. Alors, il a écrit sur le site de RDS, c'est pas une source que j'utilise souvent, le 4 septembre. Samedi dernier, je me suis rendu au tournoi de Granby pour un bain de soccer québécois. C'est une douche froide qui m'attendait. Si ça continue comme ça, je vais t'en bip lisser une.
Oups, là,
oup.
L'équipe U9, c'est-à-dire des jeunes de 9 ans et moins, l'équipe U9 de son garçon, du monsieur qui vient de parler, venait de gagner de manière convaincante. Mais un père en avait long à dire aux entraîneurs sur le temps de jeu de son fils. J'étais à quelques mètres de la scène. Le plus étonnant pour moi était l'absence de surprise chez les témoins. Peut-être était-il figé par la violence du propos ou peut-être y était-il habitué, je ne saurais dire. Cet incident m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai choisi de partager mes pensées avec vous. Je ne souhaite pas faire le procès du papa en question puisque ce serait passer à côté du véritable enjeu. Je désire plutôt remettre nos jeunes athlètes au centre d'une réflexion que nous nous devons d'avoir en tant que parents. Si tu penses qu'un entraîneur a privé ton enfant de quelque chose de précieux, du temps de jeu dans le cas qui nous concerne, ne le prive pas à ton tour. Ne le prive pas de se demander s'il a des choses à travailler avant d'occuper une place plus importante dans son équipe.
Mm-hmm.
S'il n'a absolument rien à changer dans son jeu ou son comportement, ce qui est possible, mais plutôt rare, ne le prive pas de participer à une discussion importante dont il est le sujet principal. Il a peut-être un point de vue à considérer puisqu'il est le principal intéressé. Ne le prive pas d'apprendre qu'il est possible d'exprimer son désaccord avec quelqu'un sans lui offrir un uppercut.
Ça... oui, c'est un peu agressif.
C'est un beau cadeau.
Ça pourrait lui être utile dans 15 ans, quand viendra le temps de négocier avec un employeur ou d'avoir une discussion avec sa blonde sur un sujet difficile. Ne le prive pas de saisir l'importance du timing quand vient le temps d'aborder un sujet chaud. On va décompresser et revenir parler à ton coach demain, mon grand. Sous le coup de l'émotion, il est possible, je dirais même probable, qu'un message ne passe pas bien. Quand les émotions montent, l'intelligence descend. Une leçon que j'ai personnellement apprise plutôt tardivement. Je sais que plusieurs croient que les parents devraient se taire et se contenter de jouer les chauffeurs pour transporter leur enfant vers le terrain ou l'aréna. Je ne partage pas ce point de vue. Je crois qu'un parent a un rôle beaucoup plus important à jouer, celui de repérer les cadeaux que le sport offre à son enfant et lui fournir les outils pour les déballer. Les vrais cadeaux ne prennent pas la forme de médailles ou de trophées. Ils ne sont pas toujours agréables au premier regard, mais ils présentent des opportunités exceptionnelles d'apprendre et grandir. Ce sont ces expériences qu'un jeune athlète portera encore avec lui à l'âge adulte, alors que ses trophées sont dans une boîte poussiéreuse au sous-sol. Aux abords du terrain, à Granby, le papa a choisi de faire passer son enfant en deuxième. Ce n'était pourtant pas son intention. Il a choisi d'évacuer sa frustration et de menacer un entraîneur plutôt que de se demander comment cette situation pouvait aider son enfant à gagner en expérience et en maturité.
Et ce n'est pas un très beau modèle pour l'enfant.
Aussi. En offrant de foutre une volée à son entraîneur, il a court-circuité le développement d'un garçon qui aurait pu en apprendre plus sur le dépassement de soi, la communication ou la gestion des émotions. Même s'il a eu plus de temps de jeu le lendemain, le petit n'en sort pas gagnant. Je souhaite de tout cœur que la situation soit différente la prochaine fois. Alors, il invite les lecteurs de sa page à RDS à commenter plus bas et à partager cet article. Il nous invite aussi à garder en tête que l'objectif est de remettre le jeune au centre de notre réflexion et non de faire le procès d'un papa qui pensait sincèrement bien faire pour son enfant. Aussi absurde que cela puisse paraître à première vue.
Oh, c'est intéressant.
Alors, c'était un article de Olivier Brett sur le site de RDS le 4 septembre. Fiston d'abord.
Merci, Yvan.
Oui.
Alors, Monique, parlons probiotiques.
Oui, voilà. Alors, c'est Karine Mona, dans la revue de Québec Science de septembre 2018, qui nous parle des probiotiques. Mm-hmm. Je vous dirai pas le titre tout de suite. Je vous le dirai à la fin. Alors, parce
c'est une
que,
stratégie.
Oui, c'est une stratégie parce que ce serait révéler le cœur de cet article-là. En fait, vous vous demandiez tout à l'heure, Marie, qu'est-ce que c'était des probiotiques? C'est des bonnes bactéries qui, entre autres, rééquilibrent la flore intestinale. Alors, le patient, les ingère sous forme de capsules ou de lait fermenté, donc le yogourt dont vous parliez tout à l'heure. Et si en cas de sinusite chronique, on les pulvérisait directement dans le nez?
Pourquoi pas?
Ben oui.
Eh bien, Santé Canada vient d'approuver le ProbioRinse ou ProbioRinse qui a été mis au point par un Québécois qui s'appelle Martin Desrosiers, qui est clinicien-chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ce produit contient des probiotiques que l'on appelle Lactococcus lactis W136 et il serait administré par voie nasale. Ils ont une action antibactérienne dans le nez, nous précise le docteur. Alors, cette bactérie, que je ne renommerai pas, non, le W136, on va le faire comme
faire
ça.
Trop point droit.
C'est utilisé, en fait, depuis au moins 100 ans dans l'industrie agroalimentaire pour éviter la croissance des bactéries et de champignons indésirables. Alors, Benoît Gay, qui lui est un otorhino-laryngologiste à l'Hôtel-Dieu de Québec, explique que les traitements intranasaux modifierait directement le microbiome du nez et donc l'inflammation de la muqueuse qui donne les sinusites. Bon, les causes des sinusites sont variables, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause l'inflammation. Mais pour en venir à bout, les médecins souvent prescrivent des corticostéroïdes et des antibiotiques. Ça augmente la résistance bactérienne. Mmh. Donc, l'efficacité du produit qui a été essayé sur 24 patients donne de bons résultats jusqu'à ce jour. Donc, il est déjà vendu sur le marché américain. On espère que ça s'en viendra au Canada dans les prochains mois parce que ça peut aussi soulager les rhinites allergiques. Alors, on sait que l'été, été-automne, beaucoup de gens sont allergiques. Donc, les études sont toutefois encore nécessaires pour arriver à solutionner, entre autres, le rhume des foins.
Mais c'est génial.
Mais c'était donc un article de Karine Mona qui s'intitulait « Les probiotiques dans le nez
». Voilà. Et moi, j'accorde plusieurs points pour les mots difficiles de ce texte.
Oui. Ben, le dernier était moins bon, mais c'est pas grave. Vraiment. Ça sera mieux la prochaine fois.
Meilleure chance.
Oui, meilleure chance.
Alors, Yvan, une petite brève.
Oui, moi, mes brèves, c'est pour vous présenter des sentiers gratuits pour profiter des couleurs de l'automne. Alors, je commence par le parc de la Gatineau, qui est accessible gratuitement en navette depuis Gatineau et Ottawa de la fin du mois de septembre à la mi-octobre. Le parc de la Gatineau offre aux randonneurs un beau spectacle de feuillus colorés. Le sentier de la chute de Luskville vous portera à 300 mètres de hauteur pour contempler le panorama rouge et or.
C'est joli! Mmh. Oui! Alors, restez avec nous parce que après la pause, on va parler de découvertes archéologiques, de moyens de combattre le stress des petits et de deux personnalités extraordinaires. Pour vous mener à la pause, je vous présente le mot d'enfant de Kevin qui a 6 ans. Selon lui, des arènes, c'est là que les Romains organisaient les combats de radiateurs. À tout de suite!
Sortir les loups.
soit plus mal. Avant que nos vies ne deviennent que triste requiem, qu'on n'ose plus s'aimer, qu'on n'ose plus se perdre. Soyons fous.
De service, on vient d'entendre Maritza avant.
Merci, Maurice. Monique, il y avait des centres commerciaux en Grèce antique.
Oui, totalement. Hein? On change d'univers.
On change d'univers.
Ben, la vulgarisation scientifique nous amène dans
partout,
partout et à travers les siècles.
Oui, hein? Tout à fait.
On est, oui.
Non,
t'as l'air sceptique.
Pas du tout, j'attends de savoir les heures d'ouverture.
D'accord. Alors, c'est un article de Mathieu Robert Sauvé pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 29 août dernier. Et en effet, il s'intitule « Le centre commercial antique d'Argilos est la deuxième découverte archéologique de la décennie en Grèce ». D'abord, je peux vous situer à Argilos, c'est au nord de la Grèce, mm-hmm. donc c'est quand même assez éloigné d'Athènes. Et comme le disait le titre, c'est la deuxième découverte archéologique en importance de la décennie. Le site a été mis à jour en 2013 et il témoigne d'une occupation qui remonte à plus de 6 siècles et demi avant notre ère.
Six siècles et demi avant notre ère.
Ce qui en fait le plus vieux témoin du commerce hellénique dans la région. On cherche des témoignages,
ben
en fait.
Oui. Mm-hmm.
Puis ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve, en fait, ce qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Alors, contrairement à d'autres bâtiments qui ont été découverts dans l'Antiquité, celui-ci est composé de différentes pièces. Ce qui laisse penser que chaque commerce construisait sa propre échoppe. Alors, M. Perrault, qui est un archéologue qui co-dirige la mission gréco-canadienne d'Argilos avec Zizis Bonias, qui lui est archéologue du ministère de la Culture de Grèce, ont participé à cette découverte-là. Je dois dire que M. Perrault est aussi professeur à l'Université de Montréal.
Mm-hmm.
Alors, on sait que la Grèce... Il y en a des ruines là-bas, hein? Mais quelques découvertes rapportées depuis 10 ans ont changé à jamais l'histoire, notre compréhension de l'histoire de l'Antiquité. Parmi celles mentionnées, seule l'exhumation de fraîche date d'une tombe datant de 2300 ans avant notre ère, en Crète, recèle davantage d'intérêt archéologique que le centre commercial d'Argilos. Ça situe l'importance de cette découverte-là.
Mm-hmm.
Alors, on savait que les Grecs étaient des marchands très actifs depuis l'Antiquité, mais il y avait beaucoup de mystères qui subsistaient dans la façon qu'ils avaient d'échanger des biens, jusqu'à ce que la stoa, c'est un terme grec qui désigne en fait un long bâtiment fractionné de petites boutiques. On pense à nos centres commerciaux, c'est à peu près la même chose. Oui. Les archéologues sont allés de surprise, en fait, sur ce site-là, en découvrant, par exemple, les spécialités des vendeurs. L'huile d'olive, des outils en bois, de serre, des tissus, etc. Ils ont analysé la forme de construction, puis ils ont observé que chaque propriétaire des 12 boutiques était de taille identique, mais ils avaient pris certaines libertés. Alors, entre autres, de décorer la façade de la façon dont ils le voulaient. C'est quand même incroyable.
On peut voir la décoration?
Il n'y avait pas de photo, malheureusement, qui accompagnait l'article. On peut imaginer que les citoyens d'Argilos, il y a 2,7 millénaires, faisaient leurs achats, comme on le fait aujourd'hui, déambulant le long du bâtiment commercial. On fait du lèche-vitrine dans les centres commerciaux. Ils faisaient du lèche-vitrine aussi. Peut-être qu'il n'y avait pas de vitrine, ailleurs. Ce qui témoigne d'une organisation urbaine et d'un développement architectural précédant de 350 ans les données que l'on avait jusqu'à l'heure actuelle. Le chercheur Perrault tient à souligner que la découverte d'une autre série de bâtiments autour du portique commercial pourrait s'avérer très prometteuse parce qu'il pourrait s'agir d'ateliers d'artisans, d'aires commerciales et de résidences. Donc, tout un complexe vraiment actif, un peu comme le 10-30.
Mais c'est ce que j'allais dire, voilà.
Je vous enlève les mots de la bouche, chers collègues. Oui. Alors, il y a une autre construction sur la droite de cet ensemble qui pourrait comprendre, comme je le répète, là, des zones résidentielles. Mm-hmm. Donc, le service archéologique du ministère grec de la Culture a demandé aux chercheurs de se concentrer aussi sur une portion de route de 65 mètres qui part de l'acropole, non pas d'Athènes, mais d'Argilos. Donc, Argilos avait aussi sa acropole, parce qu'on vénère les dieux, au-dessus de la colline, vers la mer. Alors, cette rue rejoint le quartier commercial. Alors, on commence à avoir une idée un peu plus précise de cette trame, cette configuration, urbaine. Alors, juste pour vous dire, donc, Argilos est situé au bord de la mer, sur une colline, et il s'illustre comme l'un des sites les plus précieux de l'Antiquité grecque, qui a été en fait mis à jour en 1883 par un archéologue français qui s'appelle Paul Perdrizet, qui avait déduit sa position, j'ai retenu cette phrase-là parce que c'était intéressant de savoir sa source, à partir d'écrits d'Hérodote.
Ah bon?
Alors, rien de moins.
C'est un journaliste populaire du temps.
C'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette cité était formée d'une acropole qui culminait à peu près à 80 mètres d'altitude. Et bon, le site est vraiment une richesse incroyable pour les chercheurs. Et ça se poursuit. Et selon le professeur Perrault, ça pourrait se poursuivre encore de 200 à 250 ans parce qu'il y a tellement de choses à découvrir.
C'est fascinant.
Alors, c'était un article de Mathieu Robert Sauvé au sujet de la deuxième découverte la plus importante de la décennie en grec pour le journal Forum du 29 août 2018.
Merci Monique. Alors, vous êtes stressé, votre enfant est stressé. 8 exercices pour soulager le stress par le corps.
C'est une mission stressante.
C'est un texte que j'ai trouvé sur le site Apprendre, Réviser, Mémoriser. Et c'est écrit par une personne qui s'appelle elle-même, c'est signé Caroline. Je n'en sais pas plus. Ça a été écrit le 3 septembre. Les exercices de respiration, de relaxation qui s'appuient sur la conscience corporelle permettent de soulager le stress et l'anxiété des enfants. Donc, en voici 8 exemples. Le premier, éteindre la bougie. On s'installe confortablement par terre sur des gros coussins devant une table basse. Mm-hmm. On allume une bougie au milieu de la table. L'objectif est d'éteindre la bougie en soufflant dessus le plus longtemps possible et donc le plus doucement possible. Et c'est un exercice qui est idéal avant d'aller au lit. On peut remplacer la bougie par une plume qu'on veut faire tomber de la table avec un souffle aussi lent et aussi long que possible. Deuxième exercice, apprivoiser justement le souffle. Demandez à l'enfant de poser une main sur la poitrine et une autre juste en dessous sur le nombril. Lui demander de, je vous vois là, en train de le faire, lui demander de faire bien attention au mouvement de chacune de ses mains provoquées par la respiration. Est-ce que la main du bas bouge? Est-ce que la main du haut bouge? Comment? On lui dit d'appuyer doucement avec les mains et de pousser le souffle dehors à chaque expiration et puis de lâcher la pression des mains pour inspirer profondément. Ensuite, on demande à l'enfant de poser délicatement ses mains autour de la cage thoracique et de respirer en laissant s'écarter la cage thoracique à chaque inspiration.
Il est en train de faire du pilates.
Voilà! Le troisième exercice, c'est la chaleur dans la poitrine. On demande à l'enfant de poser une main au centre du thorax et de respirer normalement. On imagine que la main envoie de la chaleur au plexus solaire.
Oh, on
recommence
on
plus, moi c'est ça, plus bas. On recommence plusieurs fois en vivant bien la sensation de chaleur dans la main et dans la poitrine. La sensation de chaleur à cet endroit signale au corps qu'il peut se détendre. L'idée de chaleur provoque une réelle sensation de chaleur. Quatrième exercice, les mains chaudes. Demandez à l'enfant de se frotter vivement les mains, je vous entends, l'une contre l'autre pour les réchauffer ou alors de les passer sous l'eau chaude. L'anxiété modifie le flux sanguin dans le corps et il est donc possible, à l'inverse, de modifier le flux sanguin pour jouer sur le niveau d'anxiété. Le retour aux cinq sens, maintenant, c'est le cinquième exercice. Penser au passé ou au futur a plus de chances de déclencher de l'anxiété que de porter l'attention sur le moment présent. C'est possible d'aider les enfants à diminuer leur anxiété en les habituant à revenir au présent quand ils se sentent partir dans des pensées anxieuses. Alors, on peut faire ça avec des questions qui portent sur les cinq sens. Là, en ce moment, qu'est-ce que tu sens comme odeur? Là, en ce moment, qu'est-ce que tu entends? En ce moment, qu'est-ce que tu vois? Là, en ce moment, qu'est-ce que tu sens comme contact sur ta peau? Et là, en ce moment, qu'est-ce que tu sens comme goût dans ta bouche? Alors, c'est intéressant parce qu'on revient au présent. Sixième exercice, la pression lestée. Une pression sur une partie du corps peut procurer un soulagement. Pour cette pratique, c'est nécessaire de demander si l'enfant est d'accord pour qu'on le touche. S'il est d'accord, on pourra poser une main lourde sur sa tête ou sur son épaule, ou bien l'étreindre de manière un peu plus forte. Toujours prêt à desserrer là, si l'enfant nous le demande. Dans le cas contraire, si l'enfant ne veut pas qu'on le touche, on peut lui proposer un objet lesté qu'il pourra appliquer sur ses épaules, son ventre ou ses cuisses. Ça existe, des objets comme ça qui sont dédiés pour ça, là, des tours, pour le tour de cou, des peluches, des coussins, des vêtements, des couvertures. Le septième exercice s'appelle la petite boule. On invite l'enfant à s'allonger sur un tapis ou une couverture par terre, sur le côté, en remontant un petit peu ses genoux. Ses bras sont souples et dégagés. On s'agenouille à côté de lui, alors son dos nous fait face, et on lui propose de le secouer gentiment avec des petites secousses, en mettant nos mains au niveau des épaules et du bas du dos. Et puis après ça, on recommence de l'autre côté. Et le dernier exercice, c'est la pizza brûlante. J'aime bien le titre. Demandez à l'enfant d'imaginer une pizza très, très chaude dans une assiette posée devant lui. On lui demande de bien inspirer pour sentir la bonne odeur de la pizza, puis d'expirer pour souffler et refroidir la pizza. On recommence plusieurs fois jusqu'à ce que la pizza imaginaire soit refroidie. Alors, à travers ces différents exercices de retour au corps, les enfants anxieux auront l'occasion de découvrir que quelque chose de très profond a lieu quand on s'éloigne de la tête pour se rapprocher de la respiration, quand on quitte l'anxiété et le stress pour accepter les émotions telles qu'elles sont. Alors, c'est la source de cette personne qui s'appelle Caroline. C'est le livre « J'ai plus peur, aider un enfant à surmonter ses craintes » de Lawrence Cohen et c'est publié aux éditions J.C. Lattès. Alors voilà, on peut trouver ce texte-là sur le site « Mémoriser, apprendre, réviser, mémoriser » et donc ça a été publié le 3 septembre. Thank you. Monsieur Deslauriers, tu vas nous présenter deux personnalités vraiment intéressantes.
Oui, Madame Lalande. Deux personnalités qui ont aussi un lien avec une école secondaire qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup aimé,
oui.
Parce que nos enfants y sont allés. Donc, je vous parle de Yasser Mohamed et Wilman Edouard. Ils se sont rencontrés dans une école secondaire de Montréal-Nord alors que l'un y étudiait et l'autre y enseignait le basketball. Aujourd'hui, ils mettent sur pied un organisme pour transmettre des savoirs sportifs, mais aussi des leçons de vie à des jeunes qui, comme eux, ont connu des dérives à l'adolescence. Yasser Mohamed et Wilman Edouard sont les personnalités de la semaine de la presse, de la semaine qu'on vient de passer, et c'est Marc-Claude Lortie qui nous fait ce récit. Il y a un film à faire sur l'amitié entre ces deux hommes, Yasser et Wilman. Le titre est tout trouvé. Le récit serait riche, touchant, inspirant, car il y a beaucoup à apprendre et à tirer de la vie de nos deux personnalités de la semaine et de leur réalisation pour aider les jeunes défavorisés, alors qu'eux-mêmes ne sont pas exactement arrivés sur Terre en jet privé. Yasser Mohamed porte les cheveux très courts et lorsque je le rencontre dans le hall du YMCA de l'avenue du Parc, où nous sommes venus trouver un gymnase pour les photos, je ne peux m'empêcher de poser la question. Toutes ces cicatrices sur votre cuir chevelu, ça vient d'où? Ça vient de ce que j'ai été un enfant pendant la guerre en Irak, répondit-il. Aucune bombe ne lui est tombée sur la tête, juste tout ce qui fait mal quand on est tout petit et qu'on se cache dans des trous creusés à même le sol pour se protéger de la violence extérieure. Yasser est arrivé au Québec avec sa mère, secrétaire médicale, et sa sœur, à l'âge de 11 ans, réfugié politique. D'abord Laval, puis Montréal-Nord. Un atterrissage difficile. C'est à la polyvalente Henri Bourassa, sur le boulevard Maurice-Duplessis, qu'il a rencontré Wilman Edouard, un ami qui a l'air de son frère aujourd'hui, mais de quelque 10 ans son aîné. Quand ils se sont connus, Wilman a plutôt été un père, un gars qui l'a aidé à garder le cap malgré bien des intempéries à travers les années, avec comme lien le basketball, le sport. Wilman Edouard, arrivé d'Haïti à l'âge de 3 ou 4 ans, il ne s'en souvient plus, a aussi grandi à Montréal-Nord dans une famille de 4 enfants où son père travaillait la nuit et sa mère le jour. L'un tricotait, l'autre cousait. Mais il y avait toujours quelqu'un à la maison. Lui aussi adore le sport et ce que le sport peut faire pour fédérer, motiver, encadrer les jeunes et les mener plus loin. Quand Wilman a vu pour la première fois Yasser dans cette polyvalente où les élèves ne faisaient pas partie de ceux dont la vie à Montréal était la plus facile, il a été frappé par la maturité de ce garçon au sujet du sport, mais aussi de sa vie en général. Wilman, qui a une formation en génie électronique et a longtemps travaillé dans ce secteur, est aussi depuis toujours entraîneur de basket dans cette polyvalente et à Montréal-Nord. Il a ainsi suivi le jeune Yasser pendant quelques années. Plus tard, Wilman a laissé de côté l'électronique pour travailler uniquement dans le communautaire et gagner sa vie ainsi. Yasser, lui, a fini par quitter la polyvalente, s'inscrire au cégep Dawson avec une bourse de sport, lâcher le cégep, partir en Allemagne pour jouer au basket chez les pros et revenir au bout d'une saison, les mains vides. Pas de diplôme, pas de but. Je ne voulais pas rester là-bas, je n'avais pas envie d'immigrer une deuxième fois. Il a fini par obtenir un diplôme professionnel en électricité, mais trouver du travail demeurait difficile. Trouver un sens demeurait encore plus difficile. Sa vie n'allait pas super bien. Mais le basket l'a ramené à quelque chose qu'il aimait. Le sport et les jeunes. Il travaille de nuit pour des centrales d'alarme. Le reste du temps, il est coach. Il aide des jeunes à jouer à ce sport d'équipe et il leur transmet non seulement un savoir sportif, mais aussi des leçons de vie. Comment s'en sortir quand on pense qu'il ne nous reste rien, que le monde ne veut pas de nous? Un projet aussi prend forme, un organisme, mot sport, pour aider ceux qui sont rendus au bout du tunnel, ceux dont c'est presque la dernière chance. Yasser aidera les jeunes en les coachant en basket, mais aussi en les aidant avec tout le reste, notamment à trouver du travail. La semaine prochaine, Yasser retourne sur les bancs d'école pour étudier en intervention auprès des jeunes à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal.
dans ma faculté, dont j'étais la doyenne. La vice-doyenne, pas la doyenne, la vice-doyenne, pardon.
Bon, alors il va être entre bonnes mains, alors.
On espère.
Alors qu'il met ce projet sur pied, Willman, qui est devenu père de famille entre-temps, il a 4 enfants en bas âge, revient dans sa vie. Parce que Willman, rendu là, travaille à temps plein dans ce secteur où il se sent plus utile que dans ses anciens emplois, que ce soit à la Banque nationale ou chez Mercer. Avec sa coopérative Multisport Plus, il aide les jeunes sur le plan sportif, mais il part du sport, pour les amener à apprendre la vie, à apprendre à être des citoyens, des amis, des pères, des gens engagés dans leur communauté, qui en apprécient la culture notamment. Il travaille entre autres avec les bibliothèques de la ville de Montréal.
Mmh.
Et Yasser veut la même chose, aider les jeunes qui, comme lui, ne connaissent que le sport et la dérive, à se trouver du travail, d'autres passions, des compétences. Aujourd'hui, ensemble, ce sont des coachs de basket qui peuvent aussi bien conduire des jeunes aux Jeux du Québec que les aider à apprécier la danse ou les bienfaits de l'entraide. Des coachs de vie. Deux gars qui œuvrent main dans la main, notamment avec les jeunes de la polyvalente Henri Bourassa, là où ils se sont connus il y a une 20aine d'années, là où tout ça a commencé.
Oh, c'est
très beau.
Alors,
c'est vraiment très beau.
C'était les deux personnalités de la semaine, Yasser Mohamed et Willman Edouard, que vous pouvez voir dans la presse. Il y a une belle photo.
Mm-hmm. Merci.
Alors, saviez-vous que en fin de semaine, du 7 septembre au 31 octobre, au Jardin botanique
de
Montréal...
C'est une longue fin de semaine, ça?
Oui, ça commence en fin de semaine. Les lanternes sont de retour au Jardin de Chine et raconteront une fabuleuse histoire de pêche avec dragons et autres animaux fantastiques. Le passage des saisons sera quant à lui évoqué par les lumières mises en scène au Jardin japonais, alors que l'expérience multimédia présentée au Jardin des Premières Nations a pour thème le cercle de la vie. Prenez note que cette année, il faut choisir la date et l'heure où on visitera les lieux au moment d'acheter son billet.
Oui, parce qu'ils veulent éviter qu'il y ait trop de monde
sur
le site en même temps.
Oui, parce qu'il y a tout le temps plein de fils en plus. Voilà.
Mm-hmm.
Voilà. Monique, est-ce qu'on a une petite capsule linguistique?
On pourrait. Oui. En fait, je m'intéresserais aujourd'hui au verbe minimiser.
Minimiser.
Oui, est-ce que c'est un synonyme de réduire? Ou de diminuer?
Mais j'aurais dit oui, moi.
Ouais.
Pas vraiment.
Oh.
C'est un mauvais usage. On ne peut pas dire qu'on rend une voiture plus sûre pour minimiser les risques d'accident. Faudrait plutôt dire pour réduire. Ou pour... c'est ça, réduire. En fait, le mot minimiser, c'est plutôt atténuer, sous-estimer.
Okay.
Alors, la gravité du conflit en Irak, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer la gravité du conflit.
OK. Alors, donc, rendre moins important.
Oui, c'est exactement. Ça. Voilà. Oh, une petite nuance, mais...
Petite nuance importante. Et une autre randonnée?
Oui, un autre sentier gratuit pour profiter des couleurs de l'automne. Je vous amène à l'abbaye d'Oka dans les Laurentides. C'est que plusieurs personnes connaissent d'ailleurs, une randonnée à pied ou à vélo suivie d'un pique-nique sous les pommiers. Quel plus beau programme pour une journée d'automne! Les sentiers gratuits de l'abbaye d'Oka sont partagés entre les randonneurs et les cyclistes qui se régalent du tapis de feuilles recouvrant les sous-bois. À consommer sans modération.
Ça, c'est magnifique, oui!
Monique!
J'ai une autre petite brève, en fait, sur l'alimentation. Je vais vous parler de la patate douce.
Oui.
La patate douce qui se trouvait, semble-t-il, déjà sur les îles du Pacifique, bien avant que le premier humain n'y pointe le nez, il y a 3000 ans. Alors, cette découverte, en fait, n'a pas été apportée comme on le pensait par les navigateurs en Océanie. Alors, d'après une analyse génétique, le tubercule polynésien, patate douce, donc la patate un peu orangée, elle a tout simplement divergé de son congénère américain il y a 100 000 années.
Et quand même.
100 000 années.
100 000, oui, c'est ça. 100 000 ans.
Années.
100 000 ans, voilà.
Elle était en vente.
Donc, elles étaient déjà présentes, les deux.
Oui, dans, oui, ces dans des régions différentes.
C'est ça. Okay. Alors, c'est pas parti de l'Amérique pour s'en aller
donc,
en Océanie.
Donc, elle pouvait pas être vendue en Grèce.
Alors, moi, je vous lis quelques mots d'enfant avant de partir. J'ai des nouveaux petits jumeaux dans ma vie maintenant.
Oui, c'est vrai.
Oui, alors...
Samuel
et Thomas, qui sont allaités.
Qui allaitent, oui.
Qui boivent, en fait. Selon nous, Anna, qui a 7 ans, oui. Le mot aréole, c'est le bout du sein des mamans. Comme les bébés ne savent pas encore bien voir, c'est comme du braille et ça veut dire « têter ici ». J'aime
oh là
beaucoup
là.
Ça.
C'est très élaboré,
c'est
là, comme
très,
comme
très,
pensée.
Très recherché. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Maurice, pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci, Monique.
Merci de
Yvan.
L'animation, Marie.
Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine.
Super.